Alors oui, voilà, notre soirée commence avec ce magnifique auteur Orhan Pamuk, turc. Et donc c'est Valérie Gay
Aksoy.
Aksoy qui va le présenter, c'est sa traductrice. Et ensuite, il y aura la lecture du Musée de l'innocence, quelques chapitres, par Joaquina Belaunde en français et Gülsin Kaya Öçmen en turc. Excusez-moi. Bon, ben voilà, alors nous allons discuter toutes les deux pour rendre la présentation plus vivante. Donc Valérie Gay Aksoy.
Aksoy.
Non, j'ai un problème avec le nom, mais je ne le dirai pas
vous n'êtes pas
pourquoi.
la première ni la dernière.
Non, 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 mais un autre. Bon, bref. Alors, donc, Orhan Pamuk, je suis ravie de l'avoir mis au programme de cette saison de Nobel à l'Hôtel de Massa, parce que c'est le mois d'avril, c'est le centenaire du génocide des Arméniens. Je trouve que c'est intéressant de rendre hommage à un auteur turc qui est un auteur turc et qui aussi a pris un peu à un peu parler de ce problème des Arméniens, reconnaissance par reconnaissance. Et nous lui en sommes très gré, nous les Français, qui avons reconnu le génocide des Arméniens. Donc ça me fait très plaisir. En plus, c'est un auteur, comment on peut dire ça, qui a tissé une toile autour de Istanbul, c'est sa ville, et il va nous donner un aperçu de cette ville d'une façon absolument nouvelle. Il a créé une nouvelle vision de sa ville qu'il adore, et il va la crapahuter dans tous les sens, toutes les rues, toutes les ruelles, et il va jusqu'à créer un musée à Istanbul. Il va acheter une maison, un coin, d'après ce que j'ai compris. Je ne le connais pas. Hein. C'est un musée, il va l'appeler le musée de l'innocence. Et vous pourrez voir là tout à l'heure, il y a un livre qui est tiré de ce musée. Dans ce musée, il expose chapitre après chapitre. Le musée de l'innocence est un roman qui est très long, qui est assez long, et c'est coupé en chapitres. Et pour chaque chapitre, il y a des objets dont il parle, et il va mettre ces objets dans son musée. C'est un vrai musée, hein, on visite. Et donc, par exemple, le mouchoir de la jeune fille Füsun, alors il le met dans le musée. Mais tout ça est faux, et en même temps, c'est tellement vrai, puisque ça se passe dans les années 70, et ce musée recueille tous les petits objets, les cendriers, toutes les horloges de tout cette ville est de Turquie qui s'appelle Istanbul, et avec les publicités, les affiches de cinéma, c'est incroyable. C'est une façon de rendre, comme je disais, hommage à sa ville, et en récoltant toutes les traces qui vont disparaître et qui ont sûrement pour beaucoup disparu, mais dans son musée existent. Et donc Gallimard a édité un bouquin qui s'appelle Le musée de l'innocence, et chaque chapitre 1, le voilà. Alors chapitre 1, c'est des photos de son musée. Et le chapitre 1, c'est tous les objets dont il parle dans le chapitre 1. Après, le chapitre 2, c'est tous les objets, voilà, le catalogue. Alors, le moment le plus heureux de ma vie, chapitre 1. Et donc, il y a les objets qui font partie du chapitre 1. C'est vraiment très original, magnifique. Vraiment, je vous recommande de le lire. Chapitre 41, nager sur le dos, par exemple. Et d'ailleurs, Valérie m'avait dit. Donc, Valérie traduit Orhan Pamuk. Alors, ça, c'est un grand travail.
Gros travail.
Un gros travail, parce que la langue turque.
Bah,
Voilà.
alors, la langue turque et le français. Alors, c'est comme les valets sur les cartes. Vous en prenez un et vous le mettez à l'envers. Donc, vous passez votre temps à faire de la gestion de syntaxe. Et le turc est une langue très synthétique où on accumule les suffixes derrière les mots et tout est à l'envers au niveau de la gestion du sujet, du verbe, etc. Ce qui permet d'avoir des phrases très longues, puisqu'on peut mettre énormément d'éléments pour qualifier la chose dont on va parler. En français, qu'est-ce qu'on a? oh, on a une espèce de monstre, on prend la page, on cherche d'abord le point. Où est le point ? Ensuite, on essaye de procéder par pavé de sens. Alors, quoi est lié à quoi ? Et ensuite, on essaye de gérer l'espèce de foisonnement de que, qui, dont, auquel, etc. Et c'est monstrueux. Donc, et puis, le problème des... attribuer à ou dépendre de, par exemple, un verbe en turc, il va mettre un verbe et puis tout s'accumule derrière sans problème. En français, on n'a pas la même préposition. Donc, en fait, c'est très, très compliqué. Et pour alléger la phrase, c'est un travail incroyable. L'étang, je vous passe, etc. Donc, pour que ce soit lisible, pour que ce soit une phrase impeccablement classique, comme disent certains critiques. Alors, je suis ravie quand je lis ça, parce qu'on loue la phrase d'un classicisme parfait de Pamuk. Je dis, ça c'est gagné, parce que derrière, il faut ramer. Et je vous renvoie à un article que j'avais commis dans le magazine littéraire en juillet de l'année dernière, où je parle justement d'une des spécificités de Pamuk, pour parler justement de problèmes de traduction, qui est... C'est un auteur qui construit, c'est un auteur qui est dans un foisonnement incroyable, mais ce n'est pas la jolie langue. Pamuk, c'est pas... Alors on dit, c'est vrai qu'il est très... Il a un style où il travaille. Il dit lui-même, il se flatte de travailler lentement, d'écrire, de travailler beaucoup, d'écrire lentement. Et effectivement, il ne se relie pas forcément. Il n'y a peut-être pas un travail éditorial qui est fait aussi... en aval ensuite comme ça devrait être fait ou comme nous on souhaiterait le faire, parce qu'il y a aussi une différence entre le turc et le français et qui concerne aussi beaucoup d'autres langues. Le turc adore les répétitions, adore la redondance, il n'y a pas de problème avec ça. Le français déteste ça, c'est-à-dire que si j'écris, je traduis comme c'est écrit, on me dit, madame, c'est bien gentil ce que vous avez fait, mais c'est mal traduit. Donc, je dois reprendre, je dois peaufiner, je dois ruser. Et donc, il faut toujours négocier. Alors, traduction, trahison, bon, ça, on n'en parle même plus. C'est de l'adaptation, on négocie des solutions. Le but, quand on lit un roman, c'est... Enfin, moi, ça m'arrive des fois de lire des livres traduits. Je vois en calque le texte original derrière. Et ça me gêne. C'est-à-dire que moi, qui connais la langue originale, je sais comment c'est parti, je sais comment c'est arrivé. Je ne veux pas voir ça. Quand je lis, je veux oublier. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui réussit, c'est de... On ne se pose pas la question. On lit. Et en fait, un traducteur, c'est... Ça se réduit à une tranche. Un traducteur, on ne veut pas le voir. Un traducteur n'existe pas. Un traducteur, c'est... C'est une vitrine, c'est une transparence. Il ne faut pas qu'il soit là. Si on le voit, après, c'est des traducteurs qui se mettent à la place de l'auteur ou qui... Bon, après, c'est d'autres écoles. Bon, voilà, on nous dit souvent, garder le texte au pied de la lettre, le mot. Enfin, bon, ça, c'est des débats sur la traduction qui sont sans fin et qui peuvent être débattus, justement. Enfin, à chaque fois, on est obligé de trancher, d'avoir des partis pris et c'est un choix. Voilà. On parlait tout à l'heure en coulisses des problèmes de, par exemple, Jeff Dettbey et ses fils. Pourquoi garder Bay ? Pourquoi j'ai orthographié Jeff Det avec un C et pas avec un DJ ? Parce que n'importe quel français normalement constitué va prononcer Sef Det Bay. Bay, c'est quoi ? Donc à chaque fois, on doit... il y a des chartes d'édition, on se met d'accord avec l'éditeur, mais ce n'est pas immuable. C'est-à-dire qu'au fil du temps, ça peut se transformer, ça peut évoluer. Si on prend des traductions il y a quelques années, on aimait beaucoup franciser. Donc, quitte à avoir des orthographes impossibles, aujourd'hui, les gens voyagent, il y a Internet, on voit tout de suite comment est écrit un mot, donc on le garde, même des mots comme vapouche, des mots qui sont passés dans le langage, le simite. Avant, la première traductrice de Pamuk le traduisait, comment elle faisait, un anneau au sésame, hein, enfin un truc comme ça. Donc, c'est des choix, voilà, et c'est pas fixe, et ça peut se négocier, on le fait au coup par coup.
Alors, les académiciens Nobel l'ont qualifié, cet auteur. Ils lui ont donné le prix Nobel pour cet auteur qui est à la recherche de l'âme mélancolique de sa ville natale et qui a trouvé de nouvelles images spirituelles pour le combat et l'entrelacement des cultures. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ?
Alors là, on a déjà en germe tous les fils à tirer pour l'œuvre de Pamuk. Alors on a Istanbul, La ville natale,
Nouvelles images,
les nouvelles images
spirituelles, le combat.
Le combat. Donc, le positionnement de Pamuk pour la liberté d'expression. Istanbul, qui est au cœur de son œuvre, qui le constitue de manière viscérale, c'est-à-dire que même quand il est parti, enfin, il est souvent aux États-Unis, puisqu'il donne des cours à Columbia maintenant, enfin depuis un moment, mais ça a été très ferme en 2007, justement après l'obtention du prix Nobel. J'y reviendrai sur les vagues.
Parlez-en.
Quand il a eu le prix Nobel, normalement, c'est une bonne nouvelle. Bon. Prix Nobel, le premier Turc à l'obtenir, c'était le seul et le premier, il y avait motif à se réjouir. Et alors étrangement, c'est l'année d'après où pour lui ça a été de mal en pis, c'est-à-dire il avait déjà pas mal de procès sur le dos en vertu de l'article 301 qui parle de l'insulte à l'identité turque. Donc normalement, tout auteur turc qui se respecte et digne de ce nom a des procès. Sinon, donc c'était le saut de la validité, qu'il était un bon écrivain. Ensuite, quand il a eu ce prix, alors il y a eu des polémiques à n'en plus finir sur est-ce que, comme il avait pris position plusieurs fois sur les minorités, sur en 2005, il avait fait des déclarations à un journal suisse sur le sort des minorités, donc les Kurdes actuellement, et puis des Arméniens au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, en Turquie, il y a quand même beaucoup d'opposition de grands courants nationalistes. Alors, on se dit, on l'a accusé d'obtenir le prix parce qu'en fait, il avait tenu un discours de complaisance par rapport aux Occidentaux. On l'a accusé d'avoir des positions politiques où il s'achetait le prix, en fait. Ensuite, il a été traité de traître à la patrie. Et non seulement sur ses positions politiques, mais sur son style. C'est-à-dire que en Turquie, la langue, c'est là où se révèlent toutes les fractures en fait de l'histoire, de la politique et de l'histoire en fait. On peut déceler dans le langage, dans les termes choisis, dans tel vocable ou celui-là. La couleur politique de celui qui va l'utiliser, c'est-à-dire si on emploie un mot qui a une couleur plus ancienne, arabisante ou persane, on peut taxer cette personne de passéisme, de tenant ou de religieux, par exemple. C'est un passéiste et religieux, mais les laïcs, kémalistes, républicains vont plutôt dans le sens de ce qu'on appelle l'œz turkçe, c'est-à-dire ce turc qui a été épuré des termes arabes, persans, au moment où il fallait créer cette identité nationale assez forte. Donc, Pamuk se trouve dans ce rapport-là. Plus il a du succès, plus il est critiqué. Et parce qu'on se dit, ah bah oui, il a des recours, alors il se débrouille avec la pub, il est super fort en marketing. Donc des jalousies incroyables. En même temps, les Turcs disent, moi on me disait des fois avec un petit air goguenard comme ça, « Ah donc, vous faites partie des correctrices de Pamuk ?» Donc, parce qu'on lui reproche de mal écrire le turc, on lui reproche de... En fait, il a un style qui s'éloigne beaucoup de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et pourquoi ça s'éloigne ? Parce qu'en fait, Pamuk marque vraiment un virage, mais il marque vraiment un tournant très très fort, aussi bien pour la littérature que pour la critique, et tout le monde a été obligé de suivre. Et c'est quoi qui fait la différence ? C'est que c'est un auteur qui a passé son temps à lire, à lire, à lire, à lire et à écrire. Donc il a lu toute la bibliothèque de son père, donc les auteurs turcs, les auteurs ottomans, les auteurs, l'encyclopédie d'Istanbul, donc des choses qui passent pour de la littérature populaire, un petit peu bas de gamme ou... Tom Mix, des BD aussi, la littérature anglo-saxonne, Dostoïevski, russe, française, ce qui fait qu'il a un bagage littéraire où il a pu exercer ce qu'il appelle son talent d'ingénieur, c'est-à-dire il a un esprit très mathématique, extrêmement mathématique, et c'est quelqu'un qui est très intéressé par les concepts. Alors tous ces concepts, il va les explorer. Comment est-ce que Dostoïevski a fait ? Comment est-ce que... Tempenard a procédé, comment Tolstoï, voilà, Balzac. Et Balzac. Et donc, il va se poser des questions formelles. Et c'est ça la différence, parce que au moment où il commence à écrire, c'est en 73. Donc jusqu'à 22 ans, en 1973, il voulait être peintre. Son but, c'était d'être peintre, et donc il passait son temps à dessiner, à peindre, à arpenter les rues, à prendre des photos. Il est très visuel. Il a fait des études d'architecture, et pour faire plaisir à sa maman, parce que pour avoir quand même un métier, parce qu'être peintre, c'est bien gentil, mais c'est se préparer un avenir de raté. Donc pour lire les discussions sans fin entre lui et sa mère, la façon dont il a dû se positionner pour aller au bout de ce qu'il voulait faire.
Sa famille était...
Alors sa famille, qui est d'origine bourgeoise, bon, le terme n'est pas très adapté pour la Turquie, mais bon, bourgeoise, voilà, jeune bourgeoisie, on va dire, qui s'est enrichie notamment avec les chantiers de construction du chemin de fer. Donc son grand-père a fait fortune, ils ont pu vivre comme ça, donc il est d'une famille laïque, avec un oncle ingénieur, et il y a toute la famille qui vit ensemble, donc en fait il y a la grand-mère, les grands-pères, donc il a le temps de voir, d'observer ce passage d'une société ottomane traditionnelle classique avec cette société laïque. Lui, il faisait partie d'une frange aisée de la société, mais c'était pas le cas de tous les écrivains. C'est-à-dire qu'il se demandait toujours s'il était légitime pour écrire, parce qu'il était un petit peu considéré comme un enfant gâté. Mais même dans la classe riche, ces sociétés-là se sentaient quand même appartenir aux marges de la vraie richesse qui était l'Occident. Donc en fait, il y a toujours un rapport un peu décalé, ce qui va nourrir tout son thème, sa quête de tout ce qu'on appelle le thème de l'imitation, l'imitation de ce qu'est être... l'occidentalisation, donc la quête de la limitation des modèles, de comment faut faire, et c'est des questions qui traversent la littérature depuis un siècle. C'est là-dessus, la littérature est arrivée en Turquie par la France, par la traduction, l'adaptation de romans français. Donc peu à peu, lui, il connaît tout ça, donc il va se poser des questions et s'intéresser. Donc il va avoir une base classique, donc les Anglais, comment s'appelle celle qui a écrit Une chambre à soi, voilà. Voilà, tous les classiques, il les prend, il les digère, et il se dit tout ça c'est des marches, c'est des pierres, je me fais une culture jusqu'au moment où il envoie valser tout ça, et en fait en envoyant valser tout ça, il va trouver lui-même ses propres chemins pour observer donc toutes ces lignes de force qui traversent la société, qui traversent la littérature. À l'époque où il commence à écrire, on parle de Pamuk souvent comme d'un écrivain engagé. Mais lui, les écrivains engagés, il les a vus. C'est-à-dire dans les années 70, c'était sur le devant de la scène, c'était le marxisme. Ce qu'on parlait, il rapporte une anecdote, par exemple. Comment je peux vous resituer la chose? On lui dit, tiens, tu vas écrire un roman, mais tu connais le village, toi? Le village, ça veut dire la campagne. Parce que dans les années 70, écrire un roman, ça voulait dire se pencher sur les questions de société, savoir avoir un regard. C'était dans la foulée de la guerre d'indépendance, en fait, on a redécouvert toute la texture de la société qui était faite énormément de paysans, pauvres, laissés à l'abandon, hors ville, hors culture urbaine. Donc en fait, il y avait toute une dimension des intellectuels faite de beaucoup de culpabilité où on se penchait sur cette culture pour voir de quoi c'était fait. Donc on décrivait cette société-là, paysanne, qui était à l'abandon. Et lui, bah, il dit, ben non, moi, j'étais vachement embêté. Il dit, ben non, mon village, c'est Istanbul. Enfin, j'écris sur ce que je connais, c'est la ville. Et le début du roman, le roman est une invention urbaine, c'est pas villageois, c'est pas campagnard. Donc en fait, il était assez mal à l'aise parce qu'à cette époque-là, tout le monde était gauchiste, tout le monde s'engageait, tout le monde était dans des combats, tout le monde était en prison, tout le monde était torturé, tout le monde était dans les manifs. Et puis lui, il passait son temps à bouquiner, à écrire des trucs dans sa chambre. Bon, il était en contact quand même, puisqu'il a des fois accompagné des gens pour Le Pen International, le Pen Club International. Le Pen Club International. Et donc il était au courant, tout ça, mais lui, tous les trucs collectifs, tout ça, c'était pas son truc. Et lui, du coup, il revendiquait d'être dans sa tour d'ivoire. Il dit, moi, je m'engage. En fait, il s'est engagé en littérature. Et ça n'a pas plu. Et c'est ce qui lui a demandé du courage. C'est-à-dire, il demandait ce qu'il allait faire, si c'était légitime de parler d'Istanbul, est-ce que j'ai le droit de parler de ça, ça n'intéresse personne. Et pourtant, il ne partait pas de rien. C'est-à-dire, Istanbul, on en a parlé. Qu'est-ce qui fait la différence? Enfin, ce n'est pas le premier écrivain à écrire sur Istanbul. Istanbul, c'est une ville-monde, Byzance, trois noms, Constantinople, Istanbul, tout le monde s'y est mis. Enfin, je veux dire, c'est... Et surtout les écrivains occidentaux. Donc en fait, souvent les Turcs ont découvert leur ville par les auteurs occidentaux et pas par des auteurs turcs. Donc peu à peu, lui, il a pris, c'était son... Il a navigué comme ça entre différentes dynamiques. Et il en parle de ses écrivains dans Istanbul, souvenir d'une ville. Il parle de ces quatre écrivains tristes, donc qui sont entre la culture ottomane, la nouvelle culture kémaliste, laïque, enfin la République moderne. Et donc dans toutes ces fractions, quoi, ces fractures et ces mémoires perdues, et ces mémoires perdues qui sont notamment véhiculées par les objets aussi, les objets qui racontent toute l'histoire. De la Turquie, et notamment des pertes, des expurgations de toutes ces choses dont la jeune République a essayé de se débarrasser pour...
Il y a une chose qui est très intéressante aussi, peut-être développée, c'est que la jeune République va demander aux Turcs de prendre un nouveau nom turc. Et ça, enfin, moi, je l'ignorais complètement. Je
sais un nom de famille.
Oui.
Voilà, parce que...
Ça, c'est dans les années 30
34, voilà. 34. En 1934, loi sur les patronymes. Donc, obligation de prendre un nom de famille, turc. Donc, par exemple, toutes les racines... dans quel livre il en... Non, pardon, c'est sur notre auteur, mais bon, la question du... Il y a beaucoup de noms, par exemple... je vais dire n'importe quoi. Quand ça finit par Oulu, par exemple, ça veut dire fils de... Il y a un même suffixe qui veut dire qui se dit Zadeh. Zadeh, c'est un suffixe persan qui est fils de. Mais par exemple, Tujar Zadeh, par exemple, ben non, c'était Tujar Oğlu. Ils avaient pas de. Il fallait prendre vraiment, prendre quelque chose dans une ligne fixe qui soit purement turc.
Et c'est très étonnant. Donc chacun devait choisir un nom de famille qui soit vraiment turc, pas à consonance. D'autres ethnies. Et je crois que c'est grâce à ça que Pamuk a conservé ces objets comme s'il conservait un passé turc ou ottoman, enfin, qui était en train de disparaître, puisqu'il fallait absolument que ce pays se réunifie autour de la Turquification.
Et justement, dans ce catalogue, il en parle extrêmement bien. Dans un chapitre qui s'appelle « Le massacre des objets ». Et donc dans les années 50, entre 50 et 80, entre les années 1950 et 1980, la Turquie s'est enrichie peu à peu. Donc il y a eu un enrichissement et il y a eu des collectionneurs qui ont commencé à émerger. Mais ils ne collectionnaient pas, d'abord c'était un peu honteux, puis on ne collectionnait pas des choses ottomanes. Parce qu'ils parlent des calligraphies, des panneaux de calligraphie qui se trouvaient dans les konaks ou les vieilles demeures qui partaient en cendres, puisqu'il y avait beaucoup de maisons qui sont parties en fumée pour des tas de raisons, peut-être des raisons purement par rapport à l'assurance, construire sur un terrain, enfin, on dégageait le passé sans le préserver. Et donc toutes ces calligraphies qui se trouvaient à la pelle en fait, dans les maisons, n'avait aucun prix pour les antiquaires qui commençaient à ramasser des trucs. En fait, on transformait tout pour en faire des sacs papier. Il n'y avait pas de conscience, en fait, de la valeur du passé. Et il y a des tas d'objets qui sont restés et qui... La conscience est venue peu à peu, surtout dans les années 80-90, où là, les antiquaires du quartier de Çukurcuma ont commencé à fleurir de plus en plus. Il y avait de plus en plus de boutiques où on gardait des objets qui avaient une joliesse ou un côté ottoman. Parce que dans les années 80, on est revenu comme ça à la mise en...